Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Olivier Benkemoun.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour Culture Média dans une heure. C'est l'humoriste Kéron qui sera notre invité pour son nouveau spectacle très interactif. Chaque soir pendant 60 minutes, ce sont les spectateurs qui choisissent les textes et les sketchs. Dans l'infomédia du jour, 200 pages d'amour, de désir à seul ou à plusieurs. C'est le numéro des Un Rock spécial sexe. Il sort chaque été et fait un carton. Et croyez-le ou non, chaque été, vraiment, on se l'arrache. Notre invité sera la rédactrice en chef de ce numéro sans tabou, Carole Boinet. Et puis on parlera d'un nouveau programme culinaire intitulé Le Combat des Régions, une compétition pour mettre en valeur la cuisine locale. Le programme sera arbitré par la journaliste culinaire Aurélie Chéniaud et le chef cuisinier Gilles Goujon qui vont nous rejoindre dans le studio d'Europe 1. Comme chaque jour, vos indispensables, Laure d'Autriche vous donnera envie d'écouter de la musique classique en plein air et Nicolas Caro pour une sélection de romans à emmener en vacances parce que ça sent les vacances, même pour Culture Média. Voilà pour le programme de cette dernière de la saison. Culture Média, c'est parti en direct sur Europe 1. Et Europe1.fr. Bonjour Louise Bernard.
Bonjour Olivier,
je vais vous
bonjour
reluquer mon spécial sexe.
Évidemment, mais je l'achète chaque été.
Au sommaire de votre journal des médias.
Libération cherche 15 millions d'euros. Robert Ménard devient chroniqueur. La série la plus regardée au monde sur Netflix va avoir le droit à un spin-off. Le feuilleton Elon Musk Twitter continue. Et puis, l'histoire d'un influenceur condamné pour avoir incité à détourner de l'argent public.
Mais d'abord les audiences. Qu'ont regardé les Français hier soir ?
Ils ont regardé TF1 cette semaine encore. Le film, c'était le troisième et dernier volet de la 7e compagnie. La 7e compagnie au clair de lune qui marche aussi bien que les deux premiers volets diffusés les semaines précédentes. 4 240 000 téléspectateurs hier soir. 23,4% de part d'audience. Deuxième, c'est France 3 avec la série La Stagiaire en rediffusion. Toujours 2 720 000 téléspectateurs. Moins que la semaine dernière, 15,7% de part d'audience. Et puis troisième, France 2, là aussi en rediffusion. Ce sont les vacances, comme vous disiez. 2 millions de téléspectateurs, 11,5% de part d'audience pour Nos Terres Inconnues avec Ahmed Silla.
On commence ce journal des médias avec cette information. Le journal Libération cherche à lever 15 millions d'euros.
Oui, d'ici la fin de l'année, c'est une somme qui permettrait de couvrir ses pertes pour les trois prochaines années et ainsi d'atteindre la rentabilité en 2026. En fait, à l'origine, le journal avait élaboré un plan pour devenir rentable dès l'année prochaine. Mais finalement, il va avoir besoin de plus d'argent que prévu car il a eu des dépenses supplémentaires. Alors, ce sont des investissements. Et puis, le développement de la publicité est plus lent que prévu. Comment trouver cet argent ? Eh bien, deux possibilités, d'après Denis Oliven, le directeur général de Libération. Soit Patrick Drahi réinvestit de l'argent, mais il a déjà déboursé 100 millions d'euros en 2014. Soit il faut trouver un nouvel investisseur qui accepte le modèle particulier du journal. Il appartient depuis 2 ans à un fonds de dotation pour une presse indépendante.
De la presse écrite, on passe à la télé. Robert Ménard devient chroniqueur pour LCI.
Oui, c'est l'une des nouveautés de la rentrée de la chaîne. Le maire de Béziers interviendra dans l'émission de David Pujadas pour un billet tous les mercredis soirs. C'est une annonce du directeur général adjoint de la chaîne, Fabien Namias, au journal 20 minutes. Il indique d'ailleurs que le temps de parole de Robert Ménard sera évidemment décompté puisqu'il est élu, proche du Rassemblement National. Il faut entendre différentes voix sur LCI du moment qu'elle s'exerce dans le cadre républicain. Voilà ce que dit Fabien Namias. Parmi les autres chroniqueurs de l'émission, on peut citer Luc Ferry, Daniel Cohn-Bendit et Caroline Fourest. C'est un retour aux médias pour Robert Ménard puisqu'à l'origine, il faut le rappeler, il est journaliste, cofondateur aussi de Reporters sans frontières et du site internet Boulevard Voltaire qu'il a quitté pour se lancer en politique. C'était en 2014.
Musique inquiétante. Du côté des plateformes, Netflix commande un spin-off de la série Stranger Things, dont vous entendez le générique, bien sûr.
Un spin-off, c'est-à-dire une série dérivée, rien d'étonnant face au succès de Stranger Things. C'est l'une des séries les plus regardées au monde. Les derniers épisodes de la saison 4 viennent d'être mis en ligne sur la plateforme au début du mois, mais l'aventure ne s'arrête donc pas là. Non seulement une saison 5 est annoncée, mais maintenant ce spin-off. L'intrigue n'a en revanche pas été dévoilé pour l'instant. Le site américain Deadline qui révèle l'information ajoute aussi que les créateurs de la série ont signé pour plusieurs autres projets avec Netflix, notamment l'adaptation d'un célèbre manga Death Note.
Et puis des plateformes au cinéma, c'est l'heure du bilan pour la fête du cinéma.
Oui, la 37e édition s'est terminée mercredi soir après 4 jours de places vendues à 4 euros. Et il faut dire que l'opération a largement séduit cette année avec 3 200 000 entrées. Non seulement c'est mieux que l'an dernier, mais c'est même en augmentation par rapport aux années d'avant pandémie. 4% de plus qu'en 2019, 2018 et 2017. Et dans le détail, la journée de mercredi a attiré plus d'1 million de Français dans les salles obscures. C'est vraiment une bonne nouvelle pour le secteur du cinéma qui est à la peine depuis plusieurs mois.
Il y avait des gros blockbusters, les victimes.
Exactement.
Le rachat de Twitter par Elon Musk, compromis.
Un nouvel épisode dans ce feuilleton qu'on suit dans Culture Média. Selon le Washington Post, le milliardaire n'est pas satisfait des données sur les faux comptes et les spams. Elles seraient en fait invérifiables. Depuis des semaines, voire des mois, Elon Musk bataillait avec Twitter pour obtenir ces données précises sur le nombre de faux comptes. Le réseau social lui avançait le chiffre de 5%, mais Musk était persuadé que c'était largement sous-estimé. Donc, il avait fini par obtenir une montagne de données à analyser lui-même. Mais visiblement, elles ne suffisent pas à le rassurer. Lui qui était prêt à débourser 44 milliards de dollars. On comprend qu'on puisse être un petit peu prudent. Plutôt que d'annuler la transaction, il pourrait en revanche quand même la renégocier.
Mais bien sûr. Dans l'actualité des médias également, un influenceur français condamné pour des escroqueries au fonds de solidarité pendant la pandémie.
Mais 7 ans de prison, 80 000 euros d'amende. PA7, Paul-Anthony de son vrai nom, avait incité ses abonnés sur Snapchat à se faire passer pour des auto-entrepreneurs et donc à falsifier les formulaires pour bénéficier des aides de l'État pendant les confinements. Selon la justice, 700 demandes auraient été faites, près de 34 millions d'euros demandés. Et 7,5 millions ont vraiment été obtenus. À chaque fois, PA7 prenait en plus une commission sur l'argent touché. Il aurait ainsi récupéré plus de 3 millions d'euros selon l'enquête menée, un montant qu'il conteste.
Et on termine avec un regard sur ce qu'il se passe à l'international. En Somalie, un média 100% féminin vient d'être créé.
Oui, Bilan Média. Bilan, ça veut dire beauté en Somalie. L'agence France Presse rapporte que ce média est composé uniquement de femmes et crée des contenus pour parler de leurs conditions dans ce pays ultra conservateur où, selon les Nations Unis, 45% des femmes sont mariées avant 18 ans et 98% subissent des mutilations génitales. Le média est financé par le programme des Nations Unies pour le développement. Il est dirigé par une femme de 21 ans, Nasrin Mohamed Ibrahim. L'AFP cite plusieurs exemples de sujets traités par Bilan Média. Un reportage sur une jeune fille devenue mère à 16 ans mais qui reprend sa scolarité. Ou encore un autre sur la situation sanitaire des femmes dans un camp de déplacés. Ce sont des contenus accessibles en Somalie via la chaîne de télévision et de radio d'Aslan. Et puis quand même sur les réseaux sociaux.
Toutes ces infos sont à retrouver dans la newsletter Média. Inscription gratuite sur europe1.fr. Grand merci à Louise pour le dernier journal des médias de la saison.
Mais oui, merci à vous pour cette
alors,
semaine.
Ça veut dire c'est les vacances.
Et puis, mais oui, et puis une pensée pour toute l'équipe, en particulier pour Bastien qui s'envole vers de nouvelles aventures. Merci et bravo pour cette année.
Dans un instant sur Europe 1, on parle du plus scandaleux des magazines de l'été. Et oui, le numéro spécial sexe des Inrock. À la une, ma vie sexuelle par Isabelle Adjani. Scandaleux, je vous dis, mais intéressant.
Pas
nous dira sa... Non, pas non. Nous dira sa rédactrice en chef, Caroline Boinet. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, Culture Média.
Olivier Benquemoun.
C'est un rendez-vous estival que tous les amateurs du magazine attendent. Le numéro spécial sexe des Inrock. Il est en kiosque depuis hier. 200 pages d'amour, de cul, de désir et de découverte. C'est écrit comme ça sur la une. En tout cas, c'est un sacré programme. À l'intérieur, les textes sont aussi crus que les photos et les journalistes nous questionnent sur nos fantasmes, nos corps et nos rapports les uns aux autres. Ce numéro sort alors que les Inrock ont opté il y a pile un an pour un rythme de sortie mensuel au lieu d'hebdomadaire. Une relance qui n'a pas remis en question l'existence même de ce spécial sexe. Cela fait 18 ans, oui, il est majeur, 18 ans que ça dure et que c'est un carton chaque été. Alors, ce numéro est-il devenu un marronnier ou s'est-il institutionnalisé? On va poser la question à notre invité. Bonjour Carole Boineau.
Bonjour.
Vous êtes rédactrice en chef adjointe aux Inrock et vous avez piloté ce numéro spécial sexe qui est vraiment très très attendu chaque année. C'est le hit de l'été, hein. Quel tirage!
C'est le hit de l'été, effectivement. Bah, on est sur un tirage. En gros, les Inrockuptibles mensuels vendent à peu près 32 000 exemplaires par mois. Et là, on peut espérer en vendre à chaque fois 2 à 3 fois plus, ce qui n'est pas négligeable. Un peu comme notre best-of aussi qu'on fait à la fin de l'année et qui, lui aussi, est très attendu.
Mais c'est énorme. La preuve que le sexe fait vendre.
Effectivement, ouais. En tout, en gros, le lectorat global d'un numéro sexe, c'est 1,2 million quand même de Français et Françaises.
Bon, le sexe fait vendre, mais il n'y a pas une lassitude de votre part à fabriquer. Ce qui est devenu peut-être presque un marronnier. Un marronnier, c'est quelque chose qui revient chaque année au même moment, sur le même sujet.
Moi, je suis assez contente si le marronnier des Inrockuptibles, c'est le sexe, quand d'autres, c'est l'immobilier ou les placements. C'est peut-être un marronnier, je ne crois pas. Je pense que c'est un peu notre signature estivale. En tout cas, on prend toujours autant de plaisir à le réaliser chaque année en équipe. Et je pense qu'on trouve toujours des sujets. Il y a toujours beaucoup de choses à dire, en fait, sur le sexe.
Et ben, qu'est-ce qui change sur le sexe entre 2021 et 2022 ?
Beaucoup de choses. Je pense qu'en fait, les questionnements se prolongent. C'est ce que je dis en introduction du numéro dans un texte donc, qui est porté sur la tendresse, sur le fait qu'en fait nos réflexions sur nos rapports sexuels, mais aussi nos rapports amoureux, nos rapports amicaux, vont de plus en plus loin. On se pose des questions sur le couple, sur les sex friends, sur est-ce que finalement le coup d'un soir qui était vu comme quelque chose de très libérateur pendant des années, est-ce que c'est si libérateur que ça? Est-ce que c'est pas une façon aussi d'objectifier, de fétichiser quelque part son partenaire sexuel? Je pense que toutes ces questions s'agitent et agitent énormément la société à l'heure actuelle.
À quel moment vous commencez à préparer ce numéro, puis on aimerait être une petite souris parce qu'on se demande tous comment se passe une conférence de rédaction autour d'un numéro spécial sexe.
Je commence, en fait c'est un questionnement perpétuel, c'est-à-dire que dans mon iPhone j'ai plein de notes dans lesquelles je mets des mots-clés, des choses qu'on m'a racontées, etc. ici et là, et puis je commence véritablement en janvier et effectivement c'est un travail qui est vraiment collectif, c'est-à-dire que je bosse avec une équipe de journalistes qui sont formidables, sur lesquels je compte beaucoup, qui amènent énormément d'idées auxquelles j'avais pas pensé. Moi-même, je leur suggère des choses. Et puis, là-dedans, on essaye de faire quelque chose d'équilibré aussi. Ça, c'est important, qui ne soit pas thématique. Moi, j'y tiens beaucoup, c'est-à-dire d'essayer de donner une sorte de paysage du sexe dans sa plus grande globalité. Donc, on parle aussi bien des personnes LGBTQI+, des hétéros, des personnes cis, des personnes trans. Voilà, moi, j'essaye comme ça qu'il y a un peu tout le monde qui puisse se retrouver dans ce numéro.
C'est quoi, cis ?
Une personne cis, c'est une personne dont le sexe de naissance correspond à son genre. Par exemple, moi. Je suis née femme et je m'identifie toujours en tant que femme, à la différence d'une personne trans.
Dans votre éditorial, vous écrivez que le reflet d'une époque se trouve dans la moiteur qui secoue nos corps et dans notre façon de la raconter, et que le sexe reflète autant qu'il construit notre société. De quelle manière ?
De quelle manière le sexe construit notre société ? Bah, quand même. Moi, je pense que le sexe est éminemment politique. Je ne suis vraiment pas du tout pour cette idée que le sexe devrait rester dans une sorte d'intimité. Je pense que ça peut être très dangereux. Une fois qu'on clôt les volets, qu'est-ce qui se passe dans une chambre ? Il peut se passer aussi des violences. Je pense qu'en fait, c'est justement dans la parole que le sexe peut devenir un terrain d'exploration, de jouissance, de création aussi entre plusieurs personnes. Donc moi, je suis vraiment pro-parole. D'où ce numéro. Et voilà, à mon avis, c'est comme ça aussi que la société va mieux. Quand les gens, en fait, font du bon sexe, je sais pas comment dire d'autre, c'est comme ça, je pense, que la société est beaucoup plus épanouie.
Voilà, le message des Inrocks. Faites du bon sexe.
Mais oui.
C'est quoi le sexe post-MeToo ? Est-ce que ça existe d'ailleurs ? Est-ce que c'est un concept ?
Alors, je pense qu'on n'est déjà pas en post-MeToo. Je pense qu'on est en MeToo. Je pense que la vague n'est pas du tout passée et loin d'être passée. Et donc, effectivement, MeToo a posé énormément de questions sur nos rapports, surtout chez les personnes hétérosexuelles, sur justement comment, en fait, essayer de se draguer, d'avoir des relations sexuelles de façon correcte et OK pour tout le monde. Et donc, c'est posé cette fameuse notion du consentement qui, pour moi, n'est pas du tout puritaine, qui est une notion qui est très intéressante à poser, c'est-à-dire est-ce qu'on devrait se parler de façon explicite, dire oui explicitement, comment ça se passe, etc. Et tout ce foisonnement de questions se retrouve dans ce numéro d'ailleurs.
En couverture de ce numéro, une étreinte avec une jeune fille topless qui est très jeune. Vous êtes sûr qu'elle est majeure ?
C'est vous qui avez l'esprit un peu tordu.
Non, je n'ai pas l'esprit tordu.
Très jeune, c'est une jeune femme, quoi. Je pense qu'elle a la vingtaine.
Bon, comment elle a été choisie ?
Alors, c'est tout simplement, c'est un travail photographique d'une photographe qui est des Pays-Bas, qui s'appelle Lara Verheijden, que j'ai beaucoup aimé, qu'on a beaucoup aimé à la rédaction. Et on a adoré toutes et tous cette photo. Et tout naturellement, on a trouvé qu'elle claquait en couverture et qu'elle disait en fait cette espèce de tendresse dont je vous parlais tout à l'heure, qu'on a essayé aussi de refléter dans le numéro. C'est-à-dire que je crois que le sexe à l'heure actuelle, il n'est pas trash. J'ai l'impression qu'il y a un retour aussi à la tendresse, aux sentiments, à essayer aussi de relier, en fait, finalement, nos sentiments, notre esprit et notre corps.
Ça, c'est comme ça que vous avez envie de le voir. Mais il y a énormément de sites pornographiques qui proposent des images, des vidéos crues.
Toujours, oui.
Donc, il y a aussi une autre facette.
Il y a beaucoup de sexe, beaucoup de façons d'aborder le sexe différentes.
Et d'y avoir accès. L'iconographie du magazine, d'ailleurs, est très riche en seins, en fesses, en bouche, en sexe au repos, en érection, en poil, en vulve. Quelles sont les limites ? Est-ce que vous êtes fixé des limites iconographiques ?
On ne peut pas vraiment produire d'images pornographiques en tant que telles. Il faudrait à ce moment-là, cellophaner finalement le magazine. On peut produire des images érotiques. Moi, j'estime toujours qu'il faut trouver une sorte d'équilibre. C'est ce que je vous disais, entre des images qui vont dire une forme d'érotisme, mais peut-être plus tendre, plus délicate, et puis deux, trois images qui vont être un peu plus frontales, qui vont aller un peu titiller le lectorat et potentiellement les marquer.
Alors, dans ce numéro des Inrocks, de nombreuses personnalités répondent à un questionnaire spécial sexe. Et parmi elles, Isabelle Adjani, qui se souvient du regard que l'on posait sur elle alors qu'elle interprétait Eliane dans le film L'été meurtrier de Jean Becker en 83. Elle donnait la réplique à Alain Souchon et François Cluzet. On se souvient sur Europe 1.
Vous comptez drôlement bien, vous.
Ouais, ça et mon cul, c'est tout ce que le bon Dieu m'a donné.
Oh, le cul. Oh là, le cul.
Remarque, ça doit pas être si difficile de se la faire.
Elle avait un prénom, Eliane, mais personne ne l'a jamais appelée que elle ou celle-là.
À mon avis, avec une fille comme elle qui va à droite et à gauche, tu ferais mieux de croiser au large.
C'est quelqu'un ? J'ai crevé.
On danse ?
Qu'est-ce que vous voulez faire ? Grimper aux arbres ?
Les premiers mots qu'elle m'a dit, c'était déjà un coup de marteau. Et en plus, je déteste les gens qui ont les mains humides. Je déteste. Mais elle, sa main humide avait quelque chose que j'ai toujours aimé. Je sais pas quoi. Quelque chose qui est dans les bébés, les enfants.
D'accord, Hector, d'accord. Vous emballez pas. C'est pas parce que vous m'emmènerez au restaurant que vous coucherez avec moi.
À propos de ce film, Adjani raconte « J'étais gênée quand je sentais dans le regard de certains qu'on me confondait avec le personnage, justement, un peu comme ceux qui ont confondu la libération des femmes avec prendre des libertés avec les femmes. Si elle s'habille sexy, c'est forcément qu'elle est prête à donner ce que j'ai envie de lui prendre. Ça vous donne immédiatement envie de ne plus porter que des robes chasubles et des cols Claudine ou d'annuler tout regard de désir sur votre corps en sabotant sa ligne. Ce qui m'est arrivé. » Voilà ce que répond Isabelle Adjani. Comment d'abord vous l'avez convaincue de répondre à un questionnaire spécial sexe ?
Elle a été très facile à convaincre. Elle était hyper emballée. C'est quelque chose qu'on a institué depuis plusieurs années maintenant, à chaque fois d'aller voir des artistes comme ça et de leur proposer de répondre à des questions plus ou moins personnelles sur leur rapport au désir, à l'érotisme, etc. Et Isabelle Adjani connaissait ces questionnaires, je crois, et elle a trouvé que c'était vraiment très intéressant de se confronter aussi à ces questions. Et puis je pense que les artistes savent que les inrecuptibles ne vont pas... On a un rapport assez bienveillant avec eux, c'est-à-dire le but n'est pas du tout de tomber dans un truc people, c'est plutôt d'avoir leur regard sur justement... leur travail en tant qu'actrice, là, pour le coup, sur le désir, le regard, du coup, des spectateurs sur elle. Adjani a été, effectivement, une sorte d'icône de désir, potentiellement d'érotisme, pour beaucoup de spectateurs et de spectatrices.
Et on s'aperçoit aujourd'hui à quel point, à un moment donné, ça l'a gênée.
C'est pour ça que j'ai trouvé vraiment cette interview passionnante qu'a réalisée, c'est pas moi qui l'ai faite, Jean-Marc Lalanne, parce que justement, elle revient sur justement comment elle a pu être comme ça créée en tant qu'objet de désir. Et je pense qu'elle jouait une partition donc, de Eliane dans L'été meurtrier. Et finalement, les spectateurs l'ont complètement confondu ce qu'elle raconte avec son personnage. C'est vraiment ce qu'on a appelé le slut-shaming, c'est-à-dire le slut shaming, ça veut dire en fait le fait par exemple de pouvoir se prendre une main aux fesses si on porte une mini-jupe et on va dire elle l'a bien cherché. C'est exactement ce que dit Adjani, elle dit bah non, moi j'ai le droit de porter des mini-jupes, j'ai le droit d'interpréter des personnages sexy, désirables etc. sans pour autant être catégorisée là-dedans.
Ma vie sexuelle par Isabelle Adjani, c'est en une de ce numéro des Inrocks spécial sexe. On continue à en parler avec sa rédactrice en chef Caroline Boinet. Culture Média revient sur Europe 1.
9h-11h, Europe 1 Culture Média.
Olivier Benkemoun.
Nous sommes de retour dans Culture Média sur Europe 1 en compagnie de Carole Boinet, rédactrice en chef du numéro spécial sexe des Inrocks, qui est majeur donc cette année.
Mais oui, c'est vous qui me l'avez fait remarquer.
18 ans.
J'ai trouvé ça hyper touchant.
Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a de plus en plus de femmes, de journalistes femmes qui écrivent sur le sexe, en tout cas dans ce numéro? Bien sûr, vous l'avez remarqué puisque vous êtes la rédactrice en chef.
Oui, il y a de plus en plus de femmes. Enfin, moi je mets aussi un point d'honneur effectivement à ce que il y a une représentation équilibrée entre les journalistes, mais aussi les photographes. La plupart des portfolios sont signés cette année par des photographes femmes. Je trouve ça très important. Après, les femmes se sont toujours emparées de la question du sexe, je pense, beaucoup plus que les hommes.
Parce qu'on est pudique.
Oui, ou alors c'est parce que c'est une question politique. Et je pense que les femmes, justement, ça fait partie du féminisme de s'interroger aussi sur... le sexe.
Nous sommes une émission de médias et un article a retenu notre attention, celui de Lucie Bélan à propos du réseau américain Reddit. En quoi consiste Reddit ?
Alors Reddit, c'est une sorte de plateforme communautaire américaine qui est née, je crois, en 2005 et sur laquelle, en fait, les gens partagent comme ça dans un grand fourre-tout plein de liens, de commentaires, de choses qui ont très souvent à Internet. C'est très, très minimaliste hein, comme endroit. Et en tout cas, il y a aussi des liens qui sont pornographiques, érotiques, etc. Et en fait, quand on creuse cette plateforme, quand on commence à se balader dedans, on tombe comme Lucie sur énormément de fantasmes et de fétichismes qui sont très intrigants et puis parfois un peu hilarants. En tout cas, quand elle m'a proposé ce papier, j'ai dit oui directement parce qu'elle m'a parlé de ces femmes qui se transformaient en myrtilles géantes et donc voilà, qui se peignaient en violet, qui mettaient des coussins sous des t-shirts pour faire des grosses myrtilles. Et ça m'a tellement intriguée, j'avais jamais entendu parler de ça.
C'est pas virtuel, elles le font réellement.
Alors, il y a des photos de femmes et puis il y a aussi des dessins. Hein, ça repose beaucoup Reddit aussi sur les dessins, donc ils dessinent des fantasmes. D'ailleurs, c'est ce qu'elle dit. Bon, là, il est peut-être un petit peu tôt sur Europe 1, mais voilà, je n'aurais jamais cru voir une coccinelle géante éjaculée sur les seins d'une infirmière de manga. Voilà, c'est une des choses qu'on peut voir sur Reddit. Et son article est très drôle. Donc, elle a passé une nuit comme ça à naviguer dans ce réseau et à aller de fantasme en fantasme, de fétichisme en fétichisme. Et ce que j'aime bien, c'est qu'au-delà de la blague, ça dit vraiment quelque chose de. Le sexe, c'est aussi un espace de création, d'invention, d'imaginaire. Moi, c'est ça que j'aime bien. C'est-à-dire que c'est pas que des frottements de corps, c'est aussi notre espace mental qui s'exprime.
Dans le numéro spécial sexe, il y a aussi un grand classique des Arocs, une compile disponible dans un CD fourni avec le magazine, une compile qui s'ouvre sur le titre Unconditional d'Arcade Fire. C'est presque vintage, un CD, à l'heure des plateformes de Deezer, etc.
C'est notre côté old school. Ouais. C'est notre côté, on en revient à la tendresse, c'est notre grande tendresse pour les objets physiques. On fait un magazine, on continue d'encarter un CD, comme on dit, à l'intérieur. Trêve de plaisanterie, non, en vrai, on s'est beaucoup posé la question de faire des playlists numériques, etc., voire payantes. Et en fait, on a fait des enquêtes de lecteurs. Et figurez-vous que notre lectorat est... Mais hyper attaché à ce CD. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui les collectionnent depuis des années. Il y a vraiment un délire autour de CD qui est très touchant. Et donc, on continue à le faire. Et moi-même, je trouve ça assez cool, en fait.
Sur la compilation, 17 titres et aucun français. Et ben ça aussi, c'est la spécificité des un rock, ou c'est une demande des lecteurs.
Non, ça dépend des mois, je vous avoue. Il y a souvent plein de Français. Là, ce mois-ci, il n'y en a peut-être pas beaucoup. C'est vrai qu'aussi, les Inrocks sont toujours inscrits dans une histoire musicale qui venait plus de l'Angleterre. Hein. Les Inrocks, c'est 1986, les Smiths, etc.
Bon, on retrouve évidemment un cahier très fourni destiné aux critiques ciné et séries, parce que je rappelle que c'est un numéro double, en fait. On y trouve aussi les Inrocks classiques, en quelque sorte. Et vous conseillez 10 séries à regarder cet été, parmi lesquelles le blockbuster de Netflix, Stranger Things, dont la saison 4 vient tout juste d'être diffusée. C'est en cours. Bande annonce.
Il n'arrêtera pas. Pas tant qu'il ne sera pas emparé de chacun de nous.
J'ai un très mauvais pressentiment. Ça va mal tourner pour nous cette fois.
La saison 4 de Stranger Things qui vient d'atteindre le milliard d'heures de visionnage, absolument vertigineux. On a le droit de dire du bien d'un gros blockbuster dans les Inrocks.
Ah, oh bah si le gros blockbuster, excusez-moi, est bien sûr que oui. Les Inrocks, justement, se sont toujours énormément intéressés au blockbuster. Jean-Marc Lalanne en a fait une spécialité. Il écrit sur Top Gun, il écrit sur Jurassic Park. On s'est toujours emparé, bien entendu, d'aussi objets culturels, on va dire mainstream, s'ils sont intéressants, s'ils proposent justement quelque chose qui sort un peu du lot.
La sortie de ce numéro spécial sexe arrive également, alors que ça fait précisément un an que votre magazine est passé en sortie mensuelle. Vos lecteurs s'y retrouvent. Sont heureux et vous-même vous êtes heureuse.
Ravie, vraiment. Non, je pense que c'est le meilleur choix qu'on ait fait. Les Inrock, pour le rappel, étaient mensuels. Hein. Il est passé en hebdomadaire en 95. Et on est revenu finalement un petit peu aux origines. Mais ça se sent aussi, je trouve, dans la maquette qui est devenue très épurée. Il y a beaucoup de noir et blanc, etc. Je pense qu'il y a un petit peu un retour aux sources, à notre ADN, on va dire. Et effectivement, le lectorat s'y retrouve. Les ventes sont bonnes. C'est exactement ce qu'on espérait. Et je trouve que justement, on a de plus en plus de longueur quoi, pour explorer des sujets. On a du temps à donner aux artistes et les photos explosent, ce qui est vraiment très agréable.
Quelle est la prochaine étape pour l'année qui arrive? Est-ce qu'il va y avoir de nouveaux changements éditoriaux? Vous gardez la ligne?
On garde la ligne. Il y aura la rentrée littéraire, comme d'habitude, fin août, début septembre, qui est un autre de nos gros rendez-vous. Je ne peux pas vous dévoiler la couve, mais elle sera vraiment très, très cool. Et puis ensuite, on roule avec toujours aussi, je le rappelle, des soirées mensuelles à la Boule Noire, une fois par mois à Paris, dans le 18e arrondissement, qui nous permettent aussi justement d'aller vers... on va dire un lectorat potentiellement plus jeune. On ramène comme ça des gens qui ont plutôt 25, 30 ans et qui découvrent le magazine à travers une programmation de jeunes artistes.
Donc, spécial livre pour la rentrée avec une très très cool.
Très
nous,
cool.
On met un billet dans Culture Média sur Virginie Despentes.
Je ne répondrai pas.
Mais avant de nous quitter, nous voulions vous faire partager une petite pépite des archives d'Europe 1. Celle d'un homme qui assume son impuissance. Il s'agit de Salvador Dali au micro d'Europe 1. De Christian Barbier, nous sommes le 10 janvier 1970.
L'impuissant, c'est moi. Parce que Dali est impuissant. C'est certain que les Don Juan, c'est à base d'impuissance. La mienne avait été déclenchée, d'après la psychanalyse, par une lecture, quand j'étais très jeune, d'un acte sexuel que on lui prêtait des formes tellement violentes qu'ils m'ont terrifié. Parce qu'il y avait un monsieur qui allait posséder la femme et au moment de la pénétration, il a dit qu'il l'a pénétré avec une telle violence que la femme a craqué comme s'il était une pastèque.
Vous avez entendu cet archive. Est-ce que Dali aurait pu être dans le spécial sexe 2022?
Il aurait fallu creuser un petit peu quand même cette histoire de pastèque et de pénétration violente qui m'inquiète un peu. Mais oui, potentiellement.
Il explique que ça l'a traumatisé.
Ouais, ouais.
Et c'est pour ça qu'il est devenu impuissant.
Mais ouais. Oui, moi, de toute façon, j'aime tendre le micro à tous les artistes qui répondent présent. Et je pense, justement, c'est ce que je disais dans mon édito du numéro spécial sexe, qu'on n'est pas fait du tout de marbre, on n'est pas fait de pierre. Je pense que l'être humain, il est fait à 80%, 90%, je ne me rappelle plus, d'eau. Nous sommes très fluides et nous évoluons tout au long de notre vie. Et je pense que nos fantasmes et nos désirs et notre rapport à l'érotisme aussi. C'est pour ça que ce spécial sexe, finalement, pourra durer des années, parce qu'on est en perpétuel mouvement et évolution.
Un spécial sexe majeur, je le rappelle. Merci Carole Boinet, les Inrock spécial sexe disponibles en kiosque, et évidemment tout l'été.
Tout l'été.
Et je le dis, je le répète, c'est le magazine qu'on a essayé de me piquer le plus sur le bureau cette semaine. Merci beaucoup.
Merci.
Dans un instant, on change d'arrière-cuisine. On parle d'un tout nouveau programme culinaire intitulé Le Combat des Régions, une compétition pour mettre en valeur la cuisine locale, arbitrée par la journaliste culinaire Aurélie Chéniaud et le chef étoilé Gilles Goujon. Il sera avec nous dans un instant en studio. Restez bien avec nous sur Europe 1.
9h, 11h.
Europe 1 Culture Média.
Olivier Benkemoun.
Bonjour Aurélie Chéniaud, journaliste culinaire
Bonjour.
Au Journal du Dimanche. Bonjour Gilles Goujon, chef 3 étoiles au Michelin à la tête de l'auberge du Vieux-Puy à Fonjoncouze, près de Narbonne. On vous retrouve lundi.
Bonjour.
Sur M6, pour un tout nouveau programme gourmand, Le Combat des Régions. Qu'est-ce que c'est?
Alors, Le Combat des Régions, on va dire que c'est un peu comme un interville de la cuisine. Il y a une cinquantaine de chefs qui se proposent et qui vont s'affronter à coup de recettes régionales ou de produits régionaux. Gilles, tu as quelque chose à ajouter peut-être?
Oui. Non, c'est exactement ça. J'aime bien que la comparaison avec interville, même si... Il n'y a pas les vachettes, hein, on est bien d'accord.
On peut jouer les vachettes.
Et il leur fallait quelqu'un qui ressemblait à Léon Zitrone, je crois qu'ils m'ont choisi moi.
c'est vous le nouveau Léon Zitrone.
Et la vachette, c'est moi.
en réalité, vous êtes 3 hein,
oui.
pour goûter.
Tout à fait.
Bien sûr, il y a Norbert Tarrer avec nous, qui est également le maître de cérémonie. Donc, il anime l'émission, il crée le lien entre chaque chef et leur délégation. Et en plus, ils dégustent également avec nous leur plat.
Et en plus, c'est un professionnel voilà. de la télévision.
Norbert, oui. Allez-y, Norbert, c'est le présentateur, c'est lui qui donne le « là » et qui a une patate extraordinaire et qui nous donne cette ambiance fabuleuse que vous allez découvrir dès lundi, où il y a beaucoup de rire, d'éclats de rire, beaucoup de bonne humeur sur cette émission.
C'est un ancien candidat de Top Chef, je rappelle, qui depuis a ouvert plusieurs établissements près de Paris, qui anime plusieurs programmes culinaires comme Norbert Commis d'Office ou la meilleure boulangerie de France. Alors, le combat des régions, le combat des chefs, au départ, 56 régions et donc 56 spécialités culinaires régionale.
Exactement, c'est ça. En fait, ce qui est merveilleux avec cette émission, c'est que ça nous a aussi permis à nous, donc à mes copains chefs qui connaissaient peut-être un peu plus de spécialités, on va dire, de région, mais à moi aussi, de découvrir des plats qu'on ne connaissait pas ou qu'on n'avait pas goûté depuis des années. Donc, ça nous a aussi, à nous, permis de découvrir des choses merveilleuses.
Alors, il faut expliquer un tout petit peu la mécanique. On a un chef entouré de trois personnes.
C'est ça. Et en fait, ces trois personnes sont des gens qu'il a choisis lui-même. Donc, ils font partie de sa délégation. Et ça peut être des gens qui sont... Il peut y avoir des producteurs. On a eu des apiculteurs. Ça peut être des sommeliers, ils peuvent avoir des métiers qui sont des éleveurs liés à la gastronomie. Mais on a eu aussi le maire d'un village, on a eu déjà des agents immobiliers, on a eu des gens dans l'électricité, on a eu des gens qui venaient de tous les métiers finalement.
Particularité, c'est que tous les candidats sont également jugés par leurs concurrents, parce que vous faites partie du jury, mais les autres peuvent aussi donner leur avis et plus que ça, juger.
Oui. C'est ça, bien sûr. Ils notent, ça veut dire que nous, jury, on amène 2 points chacun. Et eux, donc, il y a 8 délégations, mais il y en a 6 qui sont là, puisqu'il y en a 2 qui sont toujours en lice. Et donc, les 6 délégations notent et donnent 1 point. Ça veut dire qu'on a équilibré, ça veut dire que les délégations donnent 6 points et nous, 6 points.
Sur quoi on s'affronte exactement ?
Et alors, je voudrais rajouter une petite chose, c'est que ça permet aussi... aux autres, à ceux qui ne sont pas jurys, de goûter et de se mettre à notre place. C'est-à-dire que tout le monde est à la même place. Donc, généralement, quand il y a un concours de cuisine, il y a les jurés qui dégustent et les téléspectateurs regardent. Et en fait, là, c'était important aussi d'avoir les délégations et les autres chefs qui dégustent avec nous et qui puissent voir pourquoi parfois on va préférer un plat plutôt qu'un autre. Et c'était aussi intéressant pour nous de voir que parfois on n'est pas d'accord.
Alors sur quoi ces candidats s'affrontent ? Parce qu'il y a à chaque fois 2 plats en réalité.
Alors ils ont 2 thèmes. Ouais. Ils ont 2 thèmes. Ils commencent par le plat tradition. Donc ça peut être par exemple la Savoie va faire une tartiflette et puis l'Aveyron va faire un aligot. Et puis après, donc ils ont noté là-dessus, il y en a un qui va gagner cette épreuve. Après ils ont une 2e épreuve qui est plutôt la création. Sur cette création, on va leur demander d'avoir des produits locaux de leur département et ils doivent nous faire quelque chose de créatif. Mais quand on tape dedans, tout de suite, on soit transporté dans leur département et à partir de là, une technique, ils vont nous apporter et nous, on va les noter là-dessus aussi. Et donc, le gagnant des 2 ou celui qui aura pris le plus de points ira, lui, en finale de la semaine.
Il y a une petite mise en bouche aussi, je crois.
Alors, quand on dit petite... alors disons que...
On a pris 3 kilos, là.
Exactement. On est assez gourmands tous les 3. Donc, les mises en bouche, c'est-à-dire que les délégations et le chef viennent avec une desserte sur laquelle ils ont placé tout un tas de produits de leur région. Donc, il y a des jambons, des fromages, il y a des pâtés, il y a des rillettes, que sais-je encore. Et en fait, on était censé déguster... un produit ou 2 comme ça, un petit peu rapidement. Sauf qu'en fait, on s'est vraiment beaucoup attardé là-dessus parce qu'on a dégusté des choses extraordinaires. Donc, on s'est fait une dégustation en plus. Quoi. Voilà.
Une dernière petite chose. Comment les équipes ont été choisies ? Des candidatures spontanées ? Casting sauvage ?
Il y a eu de tout. Il y a eu de tout. Il y a eu et casting sauvage et candidature spontanée. Vraiment, là, c'est... Voilà, il y a eu de tout.
Dans un instant, Culture Média revient sur Europe 1, toujours avec Aurélie Chéniaud, journaliste, et Gilles Goujon, chef étoilé. Ils participent tous les 2 au nouveau programme de M6, Le Combat des Régions, Le Combat des Chèques. Enfin, à tout de suite sur Europe 1.
Europe 1 vous ouvre les portes du Club de l'été.
Anissa Abadi.
Je vous retrouve tout le mois de juillet avec l'équipe du Club de l'été, leurs indispensables en région, toute l'actualité culturelle près de chez vous, des jeux, des cadeaux et un invité chaque jour qui pose ses valises dans le club.
Le Club de l'été s'écoute tous les jours, juste après 9h sur Europe 1.
Et quand vous voulez sur l'appli. Rendez-vous lundi avec Elie Semoun.
Grand frais. Ouais, Steph. Bon, je devais t'aider à retaper ta cuisine, mais là, je peux pas. J'ai grand frais. Il y a une promo sur un petit rosé qui s'accorde avec les grillades, le poisson et même le fromage. Mais t'inquiète, tu vas t'en sortir comme un chef.
Jusqu'à samedi, chez Grand Frais, la bouteille de 75 centilitres de vin rosé IGP Méditerranée Arès est à 4 euros si 2 achetés, soit 5,33 euros le litre. Régalez-vous, faites vos courses.
Grand Frais, le meilleur marché.
Magasin participant sur grandfrais.com. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
À la radio, on ne peut pas vous montrer nos canapés faits main en Italie. Mais on peut vous dire que pendant les super affaires Poltron et Sofa, vous allez profiter de remises jusqu'à 70% sur toute la collection. Et oui, jusqu'à demain, les remises atteignent 70% sur toute la collection.
Poltron et Sofa, authentica qualità. Et voilà!
Qualité authentique, vérifiez disponibilité et conditions en magasin.
Leclerc.
Le goût du frais, ça se défend tous les jours.
Mais comment ils font pour avoir des fruits et légumes aussi frais chez Leclerc?
Facile, ils sont livrés tous les jours.
Tous les jours? Mais comment tu sais ça, toi? C'est encore une info de ton primeur.
Eh ouais, tiens, regarde ces tomates grappes comme elles sont belles. Origine France et à 1,49 euros le kilo.
1,49 euros le kilo? Où est le primeur? Faut que je lui parle.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Du 8 au 10 juillet, catégorie 1, livraison du lundi au samedi. Modalité et magasin participant sur www.e.leclerc.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média.
Olivier Benkemoun.
De retour dans Culture Média sur Europe 1 avec la journaliste culinaire du JDD Aurélie Chéniaud et le chef 3 étoiles Gilles Goujon. Ils sont tous les deux jurés, animateurs, goûteurs du nouveau programme culinaire de M6, Le Combat des Régions, Le Combat des Chefs, qui démarre lundi à 18h40. On a expliqué le principe tout à l'heure des régions qui s'affrontent autour de leur spécialité locale, mais qui les revisitent aussi. Ça fait partie des épreuves. 56, ils sont 56 au départ, à la fin, il en reste un.
Exactement.
J'imagine. Quel est le processus de réduction, en quelque sorte, pour utiliser un terme culinaire?
Eh bien, écoutez, ils se battent à coups de tomates, courgettes et concombres, évidemment, donc dans une arène au milieu. Et en fait, ne survit qu'un seul chef, le plus fort. Donc, non, ils s'affrontent chaque semaine. En fait, chaque semaine, on reçoit plusieurs délégations. Ils s'affrontent par deux. Ils ont à la fin une épreuve technique. Et à la fin de chaque semaine, il ne reste plus qu'une seule délégation, un seul chef.
Tout a été enregistré, il n'y a pas de direct, il n'y a pas de prime, comme on dit.
Non, tout a été enregistré, on a tout mangé, des tripes à 7h du matin jusqu'à...
Ah, le bonheur, les tripes.
Du bœuf bourguignon à 8h, enfin on a...
C'est la vie de critique et de chef, Gilles Goujon. On mange des tripes le matin.
Triple matin, soupe de poisson, voilà. On a été éprouvés à la dégustation de plats, soit à l'ail, soit aux abats, au bœuf bourguignon. Mais on a eu des choses très simples, traditionnelles, mais tellement bonnes.
Vous avez une grande
malheureusement,
culture.
Malheureusement, on y revenait, quoi.
c'est pour ça que vous avez pris 3 kilos. Vous avez une grande culture, tous les deux, des plats. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'aviez jamais goûté? Qui vous a vraiment surpris?
Peut-être
parce que c'était raté, hein, simplement.
Oui, il y en a plein. Alors, bœuf bourguignon, on avait goûté, Gilles, hein?
Oui.
Oui.
On en a eu un qui était merveilleux, quand même.
Merveilleux. Mais il ne faut pas spoiler, il ne faut rien dire. On dit rien.
On connaissait presque tout, mais il y a eu 2-3 choses, peut-être, et là, ça ne me revient pas, qui nous ont... qu'on connaissait moins, ou juste de noms qu'on n'avait jamais goûté. Il y avait... des choses absolument incroyables qui sortaient du fin fond des terroirs, pour ne pas dire du tiroir. C'était vraiment des moments de découverte en même temps, même quand on était dans la tradition.
Il y avait ce dessert incroyable, Gilles, qui était comme sorti d'un livre, d'un vieux grimoire de cuisine, d'un livre d'histoire aux fruits, mais je ne me souviens plus du nom. Et celui-ci, on ne l'avait jamais goûté, ni les uns ni les autres. C'était comme un gâteau historique, mais bon, voilà.
Vous avez oublié.
On a oublié le nom.
On gagne quoi, au fait, à la fin?
On gagne le titre de meilleur chef de France.
Je crois qu'il y a une prime de 10 000 euros
Une
cuillère
euros.
En bois.
Exactement. Et puis, Gilles a offert aussi un dîner chez lui.
Ah, ça, c'est pas mal.
Mais oui.
Ça, c'est pas mal. 3 étoiles.
Très généreusement. Ouais. Et meilleur ouvrier de France.
Aurélie Chéniaud, vous qui avez traîné dans d'autres cuisines de M6, notamment celle du meilleur pâtissier avec Cyril Lignac, expliquez-moi le succès de ces émissions depuis quelques années.
Mais je crois que la cuisine, quand même, c'est un univers qui est tourné autour du plaisir et de la gourmandise. Et on a tous des souvenirs d'enfance, on a tous des plats qui nous ont marqués, on a tous ressenti des émotions. Et quand même, généralement, quand on se retrouve à table, c'est souvent, en tout cas j'espère, avec des gens qu'on aime, qu'on apprécie, et pour partager quelque chose d'agréable. Donc je pense que c'est ça qui parle aux gens.
Et le bénéfice de ces émissions pour les chefs et pour la profession, Zilli ?
Ah, je ne sais pas si on peut appeler ça le bénéfice, mais en tout cas, ce qu'on a réalisé là, c'était, j'allais dire, une récréation. Même si c'est beaucoup de travail, hein, faut pas oui, se leurrer.
Je
c'était une récréation
générale,
parce qu'on rencontrait des gens, on rencontrait des régions, des gens qui arrivaient avec un brin de chauvinisme, si j'ose dire brin, en annonçant leur région avec force et véhémence. Et puis finalement, autour des jours, ça diminue un peu parce que ils ont sympathisé entre eux, donc ils étaient moins chauvins, etc.
Mais Gilles, vous me parlez de cette émission, mais d'une façon générale, toutes ces émissions culinaires ont apporté quelque chose à votre profession en mettant la loupe, en montrant les chefs
bien
d'une
sûr.
Façon générale. C'est,
bien sûr.
C'est là-dessus que je voulais que vous me répondiez.
D'accord. Mais bien sûr que ces émissions de télévision nous mettent en avant, nous mettent la lumière dessus, la loupe, comme vous voulez dire. Et ça, c'est important aussi que notre profession soit vue aussi. Alors, ce n'est pas par la lorgnette, mais qu'elle soit vue. Mais en même temps, des fois, ça déforme un peu, parce qu'on imagine qu'on peut être cuisinier en quelques semaines, en quelques mois, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Mais en attendant, on voit quand même bien la difficulté de ce métier et tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut créer et la rapidité dans laquelle il faut le faire, mais dans l'urgence dans laquelle on travaille. Et je crois que ça, toutes ces émissions nous amènent une lumière sur la difficulté et la beauté de notre métier.
On parle différemment aussi de la gastronomie, de l'art culinaire. La preuve avec ce document retrouvé par les services du patrimoine sonore d'Europe 1, le bœuf en daube, comme on le préparait en 1980 dans le village de Montréal de l'Aude, dans l'Aude.
Le bœuf qui est destiné à la préparation de ce plat se prélève dans le jarret de la cuisse et non dans celui de l'épaule. Il s'accompagne obligatoirement de coin de porc. On le met à mariner la veille au soir avec de l'ail écrasé, de l'oignon en rouelle, du poivre, une feuille de laurier, un clou de girofle, quelques lamelles de cèpe séchées. Le tout est mis à cuire de très bonne heure le lendemain. Et petit à petit, on s'aperçoit qu'il y a un fumet tout à fait extraordinaire qui prend possession de la maison.
C'est de la poésie.
C'est délicieux d'entendre ça, c'est incroyable.
Quel accent, c'est ouais. Macarel, c'est magnifique.
Oui.
Un accent pareil de Montréal d'Aude, moi je me régale, ça, c'est chez moi ça, c'est incroyable.
Et puis alors,
on a perdu
déjà
un peu ces accents-là quand même, on les retrouve de moins en moins.
C'est vrai.
On a réfléchi un petit quiz pour vous. Attention, il faut répondre très très vite. Musique, tapis. Alors, Aurélie, vous êtes plutôt Quiche Lorraine ou Pithiviers?
Pithiviers.
Kouign-Amann ou Calisson d'Aix?
Kouign-Amann, mon mec est breton, j'ai pas le choix.
Gilles, vous êtes cassoulet ou carbonade flamande?
Cassoulet.
Ah bien sûr. Bouillabaisse ou soupe à l'oignon?
Bouillabaisse.
Les tripes à la mode de Caen ou flamencuche?
Ah les tripes, moi, les tripes.
Les deux, mon commandant, j'adore les deux.
Oh, menteur, tu préfères les tripes.
Bon, bah, égalité alors. Égalité, je rappelle que vous êtes né dans le Cher. Vous me rappelez la spécialité de votre région, Gilles?
Alors, nous, on va dire que c'est le cassoulet, mais il n'y a pas que ça. On a la boulinade, on a plein de choses qui sont avec l'accent du midi, les escargots des Corbières. Mmh. On a la chance d'avoir la Méditerranée, mais c'est vrai que le plat le plus emblématique, le plus connu, bien sûr, c'est le cassoulet. Et de là où je suis né, dans le Cher, dans le Berry, c'est le pâté de pommes de terre, bien sûr.
Et c'est le Gilles Goujon, la spécialité de ta région, quand même.
Bon, ben, je vous remercie tous les deux, Gilles Goujon, évidemment, Aurélie Chéniaud.
Merci
on vous
beaucoup.
Retrouve lundi pour
merci
la première
beaucoup.
Du combat des régions, le combat des chefs, à 18h40 sur M6. Culture Média sur Europe 1, ça continue après les infos de 10h. Notre invité sera l'humoriste Kayron qui s'installe à partir de ce soir et pour tout l'été à l'Européen. Et c'est le public qui choisira chaque soir les sketchs dans les indispensables de la musique classique et de la lecture. Nicolas Caro pour ses choix de romans de plage et Laure d'Autriche qui vous donnera envie d'écouter de la musique classique au grand air. Enfin, on retrouvera les stories de Marc-Antoine Lebray en fin d'émission. A tout de suite sur Europe.
par les coups qui te détraquent. Pas une fois elle t'a quitté, cette foutue envie de te battre. Fais sauter le moniteur, mon cœur. Un, deux, trois, je te crois quand tu portes ta boue de bois.
Isia, mon cœur, bonjour Laure d'Autriche.
Bonjour.
Pour votre indispensable ce matin, on parle de musique classique, évidemment, et d'un festival au grand air, parce que c'est l'été, parce qu'évidemment c'est les vacances, il faut profiter pour aller écouter de la musique classique. Sous le ciel bleu.
Voilà, il y a beaucoup de festivals tout cet été en plein air, des festivals de musique classique un peu partout en France. Et je voulais vous parler d'un de ces festivals, le festival de la Vézère en Corrèze, qui vient de commencer cette semaine et puis qui se tiendra jusqu'au 16 août. Alors, il y a une vingtaine de concerts, 150 artistes, une quinzaine de lieux en Corrèze. Et je voulais vous proposer de fermer les yeux et d'imaginer justement entendre. Voilà, fermer les yeux. Imaginez entendre de la musique classique dans une chapelle située le long d'une rivière dans laquelle se trouvent des vitraux de Chagall, une abbaye, l'abbaye d'Aubazine où habitait Coco Chanel avec ses sœurs à l'orphelinat lorsqu'elles ont été abandonnées par leur père. Et c'est ici, dans cette abbaye, en regardant les vitraux, que Coco Chanel a trouvé l'inspiration, hein, les lettres entrelacées qui deviendront la signature de la marque Chanel. Autre lieu de concert, un jardin où l'écrivaine Colette a habité, un jardin et son labyrinthe géant près de Brive-la-Gaillarde, ou encore cette grange à l'acoustique étonnante, transformée en salle de concert. La musique ici résonne d'une façon magique. C'est ce que raconte Diane Dussaillant, la directrice du Festival de la Vézère.
Il y a environ 400 personnes et en fait le public est très proche de la scène. Ils vivent l'opéra, donc Carmen, elle est un peu presque installée sur les genoux d'un monsieur éventuellement du premier rang. Enfin, on a de la larme à l'œil, on s'amuse avec Così fan tutte. Et donc effectivement c'est très vivant, très proche, c'est un peu traité comme du théâtre chanté.
On entend ici un extrait de l'opéra Così fan tutte de Mozart qui sera joué cet été dans cette grange en formation de chambre. Un patrimoine exceptionnel donc, mais aussi des artistes très connus et des artistes moins connus, de jeunes artistes comme ce quatuor de saxophone, le quatuor Zahir, qui se produira le 23 juillet dans un programme consacré à de la musique américaine. Ils vont jouer sur les terrasses d'un château, le château de Turenne. Alors qu'est-ce que ça change de jouer en plein air par rapport à une salle de concert? Eh bien, le quatuor Zahir se sent plutôt à l'aise.
Pour le saxophone, c'est assez aisé d'une certaine manière parce que c'est un instrument qui a été inventé pour le plein air. En fait, c'est une commande des armées françaises au 19e siècle et le cahier des charges, c'est des instruments qui peuvent jouer vite et fort pour pouvoir être magnifiques et glorieux pour l'armée française en plein air. Bien sûr, il faudra un petit peu adapter ces nuances, c'est-à-dire le volume avec lequel on joue. On ne peut pas se permettre de faire des pianos, c'est-à-dire des nuances très douces, aussi subtiles que dans une salle où il n'y aurait pas de vent. Donc il faut adapter un peu son jeu au niveau des dynamiques. Mais voilà, sinon c'est vraiment un plaisir.
Il n'y a que en cas de pluie, ou vraiment en cas de vent, que c'est compliqué, y compris pour les instruments.
Et oui, c'est vrai, l'humidité, là il faut rentrer. Mais le saxophone, vraiment instrument de plein air, ça c'est intéressant. Vraiment conçu pour ça, par rapport au violon, ou bien sûr aux instruments à cordes, où c'est beaucoup plus compliqué. Donc eux sont ravis de jouer sur cette terrasse avec un décor exceptionnel en face d'eux. Le comédien Lambert Wilson s'est produit au festival cette semaine, c'était mardi. Et vous pourrez aussi entendre des pianistes classique, l'Orchestre National d'Auvergne ou encore le chœur de l'armée française dans des airs d'opéra le 30 juillet. Voilà le programme si vous passez par la Corrèze.
Et évidemment, vous pourrez écouter le carnaval des animaux de Saint-Saëns.
Oui.
Parce que vous venez, j'ai remarqué que vous venez toujours avec le carnaval des animaux de Saint-Saëns.
J'aime beaucoup le carnaval des animaux. Et puis, on peut le faire sous toutes les formes. Enfin, version orchestrale et version de chambre, on l'entend ici. Hein,
toujours. Ah, mais toujours, on l'entend toujours. C'est la musique du festival.
J'aurais pu prendre un autre extrait, mais il sera joué là en formation de chambre. C'est ça qui est fantastique avec le carnaval des animaux de Saint-Saëns. Formation orchestrale ou formation plus intime. Et c'est celle-là qui sera entendu avec comme récitant Alex Vizorek.
Merci Laure, c'est la passion de Laure d'Autriche pour la musique classique. Elle vous communique sur Europe 1 dans un instant notre deuxième indispensable, les choix lectures de vacances de Nicolas Caro. Donc on y va tout de suite, évidemment. Sélection de romans de plage, sélection de romans de vacances, sélection de romans de gare.
De romans tout court, Olivier. Pourquoi vous voulez faire des genres comme ça, absolument ? On commence avec une histoire d'amour ?
Avec plaisir.
Les ailes collées de Sophie Debert. Prix Maison de la Presse, très important le prix Maison de la Presse. C'est chez Lattès, ça commence par un mariage. En 2003, un petit mariage, simple. Les mariés, c'est Anna et Paul. Ils ont dit oui, donc tout va bien. Et puis soudain, Anna demande à Paul de fermer les yeux. Elle a une surprise. 1, 2, 3. Oh, plein de vieux copains qu'elle a réussi à réunir. Oh, bah, il y a Sylvain, tiens.
Oh, la surprise.
Un copain de fac. Il y a Éléonore, une copine. Oh là là, René, son vieux prof de piano, trop sympa. Et Pierre-Henri. Et puis. Oh, Joseph.
Un vieux copain aussi.
Joseph Kahn. Oui, même plus que ça. On est page 3. Flashback, 1983. Paul a 14 ans. Est enfermé dans ses 14 ans, comme écrit joliment Sophie Debert. C'est moins la joie. Il est frêle, il est bègue, Paul, et il se fait chahuter à l'école et ses parents. Bonjour. Il vit sur la côte ouest, mais il rencontre Joseph. Joseph, c'est une sorte de Huckleberry Finn, sans complexe, cool. D'ailleurs, il devient très populaire à l'école et une très forte amitié se noue entre les deux garçons, et peut-être même un peu plus. Et le roman bascule dans une exploration des sentiments, de l'homosexualité, dans les années 80, c'est important, c'est pas la même. Ça parle aussi du destin que l'on choisit, et aussi du harcèlement scolaire. Sophie Debert est instite dans le civil, elle sait de quoi elle parle, alors ça a l'air d'être un livre terrible, comme ça, dit comme ça, mais il est écrit avec beaucoup de douceur et de délicatesse, ça crée un contraste très intéressant entre les événements et le langage. Et puis, il y a ce titre.
Les ailes collées de Sophie Debert. On part en Amérique maintenant.
Oui, mais dans la profonde. L'Amérique des grands espaces, des rivières et des arbres immenses. Le roman s'appelle Auguste chez Albin Michel. Il est signé Callan Wink. Alors Callan Wink, deux mots d'abord. Il y a sa photo sur la quatrième de couverture. Beau gosse, genre Brad Pitt, 36 ans. Le type est guide de pêche à la mouche dans le Montana l'été, comme dans Et au milieu coule une rivière. Et surfeur en Californie l'hiver. Et en plus, il écrit divinement. Donc,
il a toutes les cases, il coche toutes les cases. Exactement. Je voulais juste préciser que Brad Pitt n'a pas 36 ans, il a l'âge de Jean Castex.
Ça, pourquoi c'est, vous cassez les mythes comme ça. Il a 36 ans pour toujours dans Et au milieu coule une rivière. Et alors, Callan Wink, qui avait déjà publié en France un recueil de nouvelles, au passage, c'était le plus jeune écrivain à avoir publié une nouvelle dans la mythique revue Le New Yorker. Bref, j'étais curieux de voir ce que donnerait son premier roman.
Auguste, donc, parce que ça passe en août.
Alors, je croyais aussi, mais non, c'est le nom du héros. Auguste, qui naît dans le Michigan, dans une ferme. C'est beau, mais c'est dur, faut travailler, c'est un peu rude. Ses parents ont divorcé en plus, même si les deux maisons sont pas très loin l'une de l'autre. Et il s'entend pas bien avec la nouvelle amie de son père. Mais de toute façon, il quitte bientôt le Michigan pour le Montana, avec sa mère. Le Montana, je vous rappelle, donc, Légende d'automne, etc. Jim Harrison, les grands espaces. Et il découvre justement tout ça, la pêche à la mouche, le rodéo. Et puis il grandit. Le 11 septembre passe par là et ça devient une sorte de roman d'apprentissage magnifique. On respire et on vit dans ce Montana un peu entre modernité et tradition et rapport à la nature. Il y a de la violence aussi, bien sûr, avec un style à la fois poétique et direct. Retenez bien ce nom, Callan Wink.
Un dernier polar pour la route.
Prenez le Norek, par exemple, Olivier Norek, Les brumes de Capelan, c'est chez Michel Lafon. En plus, c'est le retour de Victor Coste, le héros qui l'a fait connaître. Il traîne un vieux traumatisme que le lecteur des premiers romans connaisse. Maintenant, il est très loin, puisqu'on le retrouve à Saint-Pierre-et-Miquelon, voyez, du côté est du Canada, archipel français. Bien sûr, Coste y est devenu le chef de la police aux frontières, mais en réalité, il travaille pour un service un peu spécial, celui qui est en charge des témoins, des repentis à protéger. En l'occurrence, il doit s'occuper d'Anna, une victime. Elle a été kidnappée 10 ans plus plus tôt, mais elle est aussi témoin de plusieurs meurtres. D'ailleurs, le roman commence par l'enlèvement d'Anna à 14 ans avec un mode opératoire très, très particulier et très pervers. 10 ans plus tard, donc, le rôle de Coste, c'est de la protéger et de lui tirer les vers du nez et de comprendre pourquoi elle a été épargnée. Contrairement aux autres victimes, le serial killer court toujours. Or, comme vous le savez peut-être, à Saint-Pierre-et-Miquelon, il existe un phénomène de brume très intense tous les ans, c'est-à-dire pas un petit brouillard tranquille, une purée de pois à couper au couteau. Et donc, il y a à la fois le huis clos de l'île, mais aussi l'enfermement dans la brume, tout ça avec une menace sourde qui rôde, et une enquête à résoudre, et des flics cabossés, et des mensonges, et des fausses pistes. Un grand Norek.
Ouais, les brumes électriques de Norek, en quelque sorte. Les brumes de Caplan, exactement, c'est chez Michel Lafon. Merci Nicolas Caro, merci Laure d'Autriche. C'était les derniers indispensables de la saison.
Olivier.
Dans
à bientôt.
Un instant, Culture Média revient. Kayron, humoriste, viendra nous parler de son nouveau spectacle. Il commence ce soir, il s'installe ce soir à l'Européen à Paris. C'est tout de suite, c'est sur Europe 1.